Andalouse. Chers auditeurs de Radio TAF, bonjour. Nous abordons la dernière étape de notre voyage musical, à savoir la Tunisie, qui a elle aussi accueilli à la fin du XVIe siècle son contingent d'exilés. Formant une sorte d'enclave aux confins de l'Algérie et de la Libye, la Tunisie a su produire une grande musique à la beauté caractéristique. En effet, la musique andalouse tunisienne a réussi à réaliser la synthèse entre des styles musicaux différents. Les quelques 8000 exilés andalous qui gagnent la Tunisie au XVIe siècle mêlent harmonieusement la culture andalouse proprement dite aux musiques turques, égyptiennes, voire soufie. Alors que juifs et musulmans en Algérie ou au Maroc ont interprété avec un égal bonheur la musique andalouse classique, la nouba, en Tunisie, ce sont les musiciens musulmans qui ont repris la tradition des noubas à travers ce qu'on nomme le malouf tunisien, devenu leur domaine de prédilection. Parmi les grands interprètes de malouf, on peut citer Ahmed Al-Wafi, Mohamed Triki, Khmeyes Ternan et Dorsaf Hamdani plus près de nous. On a craint à un moment donné que les mélodies andalouses de Tunisie ne tombent dans l'oubli. C'est ce qui a incité juifs et musulmans à œuvrer pour leur sauvetage et leur conservation. Alors que les juifs ont repris certaines mélodies andalouses, ayant adapté des textes liturgiques en hébreu afin de les faire entrer dans la synagogue pour les pérenniser, les musulmans ont, pour leur part, introduit ces mélodies, en réalité avant même qu'elles ne soient menacées d'oubli, dans les chants des différentes confréries religieuses. Cet effort de conservation du répertoire andalou a conduit à la création de conservatoires de musique andalouse. Bénéficiant du soutien actif des différents beys, le conservatoire le plus fameux, et dont la réputation s'est étendue dans tout le Moyen-Orient, est certainement celui de la Rachidia, qui a apporté la consécration à plus d'un artiste. Le conservatoire de la Rachidia a été nommé ainsi en hommage au souverain Mohamed Rachid Bey, poète et musicien passionné, qui a apporté une attention particulière à la musique d'Andalousie et qui a ardemment soutenu son développement dans le pays. Les Juifs, quant à eux, étaient en réalité déjà présents en Tunisie bien avant l'expulsion d'Espagne. Leur présence remonte à la destruction du premier temple de Jérusalem en 586 avant notre ère, et les Kohanim, les prêtres qui officiaient au temple, se sont fixés sur l'île de Djerba, où ils ont édifié la fameuse synagogue de la Griba, dont la première pierre, nous dit la légende, proviendrait du temple de Jérusalem, pierre emportée dans la fuite. Après l'arrivée des populations expulsées d'Espagne, la Tunisie a encore accueilli en son sein un nouveau contingent de juifs originaires de Livourne, cette fois. La multiplicité de toutes ces origines a donné lieu à une musique que les juifs jouaient pour les occasions festives, dans des brit milas, les bar mitzvahs et les mariages. Afin de mieux se mêler au nouvel environnement, certains artistes juifs prennent des noms à consonance arabe, comme par exemple Israël Rosio, qui deviendra célèbre sous le nom de Sheikh El Afrit, ou comme Louisa Saadoun, qu'on appellera Louisa Tunsia, Louisa la Tunisienne. En raison de l'interdiction faite aux femmes musulmanes de chanter et de se produire en tant que soliste, la place occupée par les chanteuses juives dans le paysage musical tunisien était considérable. On compte parmi elles quelques personnalités parfois hautes en couleur comme Leila Sfez, Habiba Msika, Louisa Tunsia, Fritta Darmon. Des artistes masculins se sont bien sûr également illustrés dans la chanson tunisienne comme Raoul Journeau et Sheikh El Afrit en particulier. Commençons avec Louisa Tunsia, Louisa la Tunisienne que nous venons d'évoquer, chanteuse juive qui a connu un grand succès après-guerre en Tunisie, mais aussi au Maroc et à Paris où elle se produit au fameux café Le Tam Tam, dans le quartier latin, rue Saint-Séverin. Le Tam Tam accueille de nombreux artistes, des vedettes de la chanson orientale comme le célèbre chanteur égyptien Farid El Atrash, entre autres. Elle collabore avec d'autres chanteurs juifs comme Sheikh El Afrit. Elle chante en français, des succès qui seront repris par Renette Loranaise et Lili Boniche en Algérie. Elle chante également bien évidemment en arabe et parmi les titres qui ont remporté un vif succès, il y a Warda, La Rose, que nous écoutons immédiatement dans un enregistrement qui date un peu et qui effectivement a été réalisé en 1947, Louisa Tunsia dans Ya Warda.
Oh,
Maria Warda, Luisa Tuncia. C'est Luisa Tuncia encore qui enregistre pour la première fois en 1945 un des succès du compositeur, chanteur et oudiste Eddie Jouini. Eddie Jouini a composé sans relâche plus de 1000 chansons, pas moins de 56 opérettes durant sa carrière. Il entame des études qu'il quitte rapidement alors qu'il est un admirateur du chanteur Mohammad Abdel Wahab. Et c'est Mouni Jebali, un musicien juif, qui l'initie au oud, instrument qu'il ne quittera plus. Il rejoint le mouvement artistique nommé Tat et Sour, qui signifie « sous les remparts ». Ce groupe se réunissait dans un café du même nom. On y croisait journalistes, libres penseurs, anticonformistes, pessimistes et fauchés, en tout genre, qui donnaient le change avec ironie et humour noir. On y croisait aussi des paroliers, des musiciens comme Khmeyes Ternan et Abderrazak Karabaka ou encore Eddie Jouini. À cette époque, Eddie Jouini touche à tous les styles, folklore, musique, de film, mouwacha. Sa carrière est récompensée en 1966 par le grade d'officier de l'ordre de la République auquel il est élevé par le président Bourguiba. En 1982, il est à nouveau décoré pour l'ensemble de son œuvre. Et sa réputation s'étend jusqu'à Paris où il reçoit les félicitations du compositeur Georges Auric, alors président de la SACEM. Le titre enregistré pour la première fois par Luisa Tuncia, s'intitule La Mouni Ligarou Meni, les envieux m'ont fait des reproches. Ici interprété par Eddie Jouini lui-même, avec une joie de se produire en scène absolument incomparable. On y sent l'influence de la musique égyptienne par la prédominance des violons qui font traîner les sons d'une manière langoureuse, caractéristique du jeu égyptien. C'est un titre qui a également été repris par les païtanim juifs sur des paroles en hébreu, la Mole de Tchouv Ironi, pour les connaisseurs, mais pour l'heure, place à Eddie Jouini dans La Mouni Ligarou Meni.
Yeah. في عينيها آدم هي في عيني حرب قالوا لي نشتعشك خادم قلت لهم يزل الدور في عيني حور قالوا لي لا اشتعشك خالي قلت لهم يزي مدور صمرا بيعني العالم والعالم كله شاهيها قالوا لي لا الصمرة اللي غرتوا منها حبيتوني بس نختارها ما نجمش نبعد عنها أنا كل حتى في ماها لا 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 الصمرة اللي غرتوا منها وحبيتوني بس نختار ما نجمش نبعد عنها أنا كل حتى في ماها مسحور وعشق يبدنها ومسحور بخزرة عينيها لو بدي داروبي
Lamouni Liga Roméni par Eddy Jouini. Salihah fait également partie des grands de la chanson tunisienne. Née dans une famille pauvre dont les parents ont connu le drame de la mort de deux de leurs enfants, Salihah a très tôt dû travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Mais la Providence a voulu que Salihah gagne Tunis, où elle devient fille au père d'une famille bourgeoise qui n'est autre que celle de Mohamed Bey, qui reçoit régulièrement chez lui de grands artistes. Salihah, baignée dans cette atmosphère musicale, s'initie au chant en imitant les princesses qui fréquentent la demeure de Mohamed Bey afin d'y faire l'apprentissage du chant. Elle entre ensuite au service d'une chanteuse professionnelle du nom de Badria, à Tunis toujours, et c'est là que son don pour le chant sera découvert. La mort de ses deux frères, le divorce de ses parents, son propre divorce et le décès de ses propres enfants constituent pour Salihah autant d'épreuves très difficiles. Mais malgré cela, elle développe une carrière impressionnante et connaît la consécration en étant acceptée au sein du conservatoire de musique andalouse, la Rachidia, à tel point qu'on dira d'elle, Salihah et la Rachidia ne font plus qu'un. Remeyes Sternan écrira pour elle de nombreuses chansons. Et Salihah était l'une des très rares femmes musulmanes à avoir été chanteuse et soliste à cette époque. Et elle a bénéficié de l'enseignement de Remeyes Sternan. Artiste passionnée et encensée par la critique, Salihah finit par quitter la Rachidia pour mener sa carrière comme elle l'entend. Malade, elle continue à se produire sur scène. La maladie l'emporte finalement en 1958 et ce sont plus de 20 000 personnes qui assistent à son enterrement. Nous écoutons Salihah dans un titre intitulé « Yakhlila » précédé dans cette interprétation de « A Wadouni ». Yakhlila nous parle d'amour déçu. « A cruelle amante, oublieuse du rendez-vous de l'autre nuit. Quand l'amour déserte l'amant le pauvre qu'elle supplice, sa nuit devient interminable, A cruelle amante. Ne m'as-tu pas fait des promesses? Combien de fois m'as-tu menti? Pourquoi mes attentes ont-elles été trompées aussi souvent? Pourquoi m'oublies-tu après m'avoir dit « rendez-vous ici » Rejoins l'oued après le coucher pour de longs et agréables moments, à cruelle amante. Nous écoutons Salihah dans A Wadouni, suivi de Yakhlila.
« شيعوني يا لا بلاد بالله جديدة وخانت فاطمة ناس يا الميعاد يا ناس يا الميعاد واللي جفاه الحم
بدون اثنين قاعده طويله
يا خليله.
حتى حد ما نلقى على قبر هكذا نشقى واللي خالف الوعد ما نلقى لوش حيلة
Yakhlila par Saliha. Je vous propose à présent de la musique instrumentale en compagnie de Ahmed Kalaï, décédé en 2008. Ahmed Kalaï est un oudiste, un compositeur et un chanteur qui a puisé aux sources des traditions musicales tunisiennes, mais aussi proche-orientales. Fêté dans tout le monde arabe, il est parvenu au fait de sa carrière dans les années 60. Né dans une famille de musiciens, il est initié au oud dès l'âge de 5 ans et progresse sous l'influence du maître Ali Sriti. Devenu un véritable virtuose, il fait figure d'innovateur en hissant le oud au niveau d'instrument soliste. Il existe une composition musicale d'origine turque nommée le samay. Cette forme s'est répandue dans les régions sous influence ottomane. Il s'agit d'un prélude instrumental qui, à l'origine, introduisait la liturgie dite du sama, des confréries derviches. On interprète également le samay comme pièce d'ouverture des noubas. Et c'est précisément dans un samay que nous allons écouter le jeu virtuose de Ahmed Kalaï, le samay Nhawand, qu'il interprète ici avec brio et qui est écrit pour oud solo avec accompagnement de percussions. Thank you. le Sama in Hawand par Ahmet Elkalai. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, une sorte de partage des rôles s'est effectué en Tunisie. Les chanteuses et chanteurs juifs se consacrent à la chanson, alors que les musiciens musulmans ont investi le domaine de la musique andalouse classique qu'on appelle en Tunisie le malouf. Le terme malouf en Tunisie recouvre aussi bien les répertoires profanes que religieux. Cependant, lorsqu'on évoque le malouf, on pense principalement à la nouba, initiée en Andalousie par le musicien originaire de Bagdad, du nom de Ziryab, si vous vous rappelez de nos toutes premières émissions. C'est le musicien Mohamed al-Rachid, au XIIIe siècle, qui fixe le répertoire des noubas tunisiennes. Comme dans toute la musique arabo-andalouse, on retrouve dans la musique tunisienne le naï, flûte en roseau, le kanoun, une sorte de sitar, le oud, l'ancêtre du luth, le violon et les percussions comme le tar ou la darbouka. Le malouf tunisien conjugue l'héritage andalou avec l'influence ottomane, mais il incorpore aussi en son sein des chants soufis interprétés au Maghreb. Plus que l'andalou algérien ou marocain, le malouf tunisien s'est montré ouvert aux influences moyen-orientales. Il a connu une intense période de développement au XVe siècle avec la chute de Grenade. Les exilés d'Andalousie se concentrent dans les villes de Testour, Tunis, Solémane, Bizerte, Kairouan, qui ont été autant de centres de transmission et de création artistique. On y joue le Al-Jed, d'esprit religieux, et le Al-Hazel, de sensibilité profane. Sur les 24 noubas existantes du temps de Ziryab, 13 ont survécu en Tunisie. À titre de bref rappel, le terme nouba signifie « conforme à la tradition ». En Tunisie, la nouba débute par une wasla, qui consiste en une suite de pièces instrumentales et vocales. Très prisée en Libye, à Constantine et en Tunisie, la wasla débute ordinairement par une pièce pour oud, appelée un taksim. Vient ensuite une pièce jouée par le tart, le groupe instrumental, pour finir avec les mouchawa, chanté par les chanteurs. Le wasla marque alors une pause avec le jeu de un ou deux taksims afin d'aiguiser l'attention des auditeurs, puis elle culmine avec la participation de toute la formation musicale. De nos jours, les autorités publiques tunisiennes font de leur mieux pour préserver cette musique. Des personnalités marquantes comme Khmeyes Ternan, Mohamed Al-Wafi avaient déjà beaucoup fait en ce sens à leur époque. Et actuellement, la relève est assurée par de jeunes musiciens qui reprennent le flambeau, telle la jeune et talentueuse chanteuse Dorsaf Hamdan. Née en 1975, elle s'initie au malouf au Conservatoire National de Musique de Tunis. Titulaire d'une maîtrise de musicologie, elle entreprend des tournées avec la Rachidia. Nous l'écoutons immédiatement dans deux extraits, l'un instrumental et l'autre vocal, de la wasla de la nouba Esbaïn.
Thank you.
De la Nouba Ezbaïn par Dorsaf Hamdani. Comme nous l'avons dit, lorsque le répertoire a été menacé d'oubli, une partie des mélodies andalouses ont été introduites dans les synagogues par des rabbins désireux de les préserver. Des textes liturgiques ou de caractère religieux en hébreu ont été adaptés par des rabbins réputés pour leur action religieuse autant que culturelle, tels le rabbin Fragi ou le rabbin Chaim Taïeb. Mais c'est Alain Sedbon, que l'on appelle aussi Rabbi Michael Alain Sedbon, que nous allons écouter à présent, dans une de ses mélodies andalouses sur un texte en hébreu, un piyout, un poème. L'hébreu y est ici chanté selon la prononciation propre à la Tunisie.
Baruch haba b'shem Adonai, Baruch haba b'shem Adonai. Ayin nezim, dachal b'rito, adiu emu, yeruho petu, melech ha'koel, barich oto, istila azot, noam Adonai, Baruch. Oh, آمين كي يوم عرادنا يوم صارتنا براكة بتطلع وليدنا وبوك يطرع بيطمر ما تتشوه أهو بوك يطرع بيطمر ما تتشوه ونفس أبوك الصغير وتبدلون أحري وتمدون الموين الليلة حضر فات وتمدون الموهن لينا حضر بان طارتنا براكة بيكو
Nous écoutions Michael Alain Sedbon. Pour terminer cette émission, c'est à une figure plutôt sulfureuse que nous allons nous intéresser. Habiba Msika a été une danseuse, comédienne, une chanteuse charismatique qui a tourné la tête à plus d'un homme. Marguerite Messika prend le pseudonyme de Habiba, la bien-aimée. Née en 1903 dans une famille juive pauvre, elle est encouragée par sa tante, la chanteuse Leila Sfez, à entreprendre des études de musique et d'arabe classique auprès du grand Khmey Esternan et du chanteur égyptien Hassan Banan. Dans les années 20, sa carrière prend son envol et la chanteuse aux yeux verts est adulée par la jeune génération de la bourgeoisie tunisienne. Lors de son premier récital, elle rencontre celui qui deviendra son pygmalion et son amant, le ministre de la Plume du nom de Aziz. Avec lui, elle gagne Paris et fait la connaissance entre autres de Coco Chanel qui dira d'elle « Habiba est un tempérament de feu sous ses grâces d'orientale ». De retour en Tunisie, elle interprète sur scène au répertoire shakespearien. En 1925, alors qu'elle incarne le personnage de Roméo et Rachida Lofti, celui de Juliette, Habiba donne un baiser à l'actrice libyenne. Cela provoque une véritable émeute et des spectateurs hors d'eux mettent le feu à la scène. En 1928, connue pour ses positions nationalistes, elle connaît encore des déboires et est arrêtée par les autorités coloniales après avoir joué la pièce de caractère indépendantiste « Patrie ». Elle devient la maîtresse du prince Fouad d'Égypte et dans le même temps fait la connaissance d'un juif fortuné de Testour, Eliahu Mimouni, qui s'y prend d'elle éperdument au point de lui faire construire un palais. Mais Habiba quitte Mimouni et entreprend une romance avec un ami d'enfance. Mimouni le supporte mal et un certain jour du mois de février 1930, il se rend à son domicile de Tunis, asperge Habiba d'essence et l'immole avant de se donner la mort. Cette fin tragique endeuille toute la Tunisie. Nous écoutons Habiba Msika dans un titre intitulé « Al-Asrir Ennoum ».
No.
Alaskir Ennum par Biba Psika. Nous voici parvenus au terme de cette émission, mais je vous invite d'ores et déjà à nous retrouver prochainement pour une deuxième émission où nous découvrirons d'autres grands talents tunisiens qui ont fait de l'héritage andalou une musique enchanteresse et ô combien touchante. Au revoir et à très bientôt.